Des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin.
Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h du matin.
Jean-Pierre Richard, j'aimerais, pour commencer cette série d'entretiens, vous demander comment vous entendez votre voix.
C'est une émission qui passe au milieu de la nuit. Enfin, c'est aux environs de quoi, 2-3 heures du matin.
Enfin, on sait bien par la psychanalyse que le premier geste, si je puis dire, du vivant est d'intérioriser sa mère.
Eh bien, pour la dernière fois sur France Inter ce soir, bonsoir, Macha Béranger avec vous jusqu'à 1h du matin.
Vous n'êtes pas sur France Inter, il n'est pas minuit, je ne suis pas le fantôme de Macha Béranger. Mais c'est bien le domaine de la nuit dont nous avons commencé il y a 15 jours l'exploration. Aujourd'hui, nous allons nous enfoncer dans cette nuit en parcourant son histoire. Car oui, la nuit a une histoire qui plus est fort ancienne.
Au commencement, il n'y a rien. Pas de matière, pas d'énergie, ni même de vide, car l'espace n'existe pas. Le temps ne s'écoule pas, car il n'existe pas non plus. Soudain, venu de nulle part, surgit une boule de feu plus petite qu'un atome.
Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comme un grand vide. L'obscurité couvrait l'océan primitif. Et le souffle de Dieu agitait la surface de l'eau. Dieu dit alors que la lumière paraisse. Et la lumière parut.
Docteur Dominique de Michel, pour préparer cette émission, je me suis appuyé sur le numéro, sur la revue Archipel, qui est une revue créée par Jalmave. Et vous avez cette phrase dans cette revue, c'est la nuit que tout commence.
Oui, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé lors de la précédente émission, et je pense que on peut imaginer au cœur de l'énigme du temps, hein, parce que le temps, qu'est-ce que c'est ? Bon, on sait tous ce que c'est que le temps, mais au fond, c'est un petit peu difficile de le définir. On peut se rappeler que l'univers est né, nous disent les scientifiques, hein, il y a un petit peu moins de 14 milliards d'années. Et à cette époque, les scientifiques nous disent que l'univers était très très dense, très très dense, très chaud, peut-être comme... Gros, je pense qu'on ne peut pas mesurer ça, mais c'était peut-être une espèce de petit pois ou d'orange ou d'un ballon de football, voilà, dans lequel il y avait une énorme, énorme quantité de quelque chose. Cette chose-là, qui serait comme une espèce de petite tête d'épingle qui un jour serait apparue au milieu de nulle part, et le nulle part ne voulant d'ailleurs absolument rien dire, hein, Ça serait né là, et puis ça se serait dilaté, c'est-à-dire la petite tête d'épingle est devenue un petit pois, puis ensuite un ballon de football, puis ensuite cette espèce d'univers qui est immense, puisqu'en gros, il mesure, et alors vous voyez bien que c'est là où on voit que l'espace et le temps sont mélangés, puisque il mesurerait 13,7 milliards d'années. Alors vous allez me dire, mais c'est du temps ça, ou si c'est de l'espace? Eh bien, probablement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est le temps que mettrait un photon pour aller du bout de l'univers jusqu'à l'autre bout de l'univers.
Alors, ça veut dire quand même que avant le Big Bang, qui serait une explosion primordiale,
oui,
on serait dans l'obscurité, c'est-à-dire de l'obscurité. Une explosion, on imagine de la lumière dans une explosion?
Non, là, au début, il n'y a pas de lumière. Alors, dire ce qui se passe avant le Big Bang, c'est totalement impossible, puisque c'est de dire avant le rien, qu'est-ce qu'il y a? Avant le rien, on ne peut pas dire ce qu'il y a, puisqu'il n'y a rien. Le premier rayonnement de l'univers, le rayonnement, c'est-à-dire il y a un petit machin qui se déplace, il serait probablement apparu entre 380 et 400 000 ans, autant dire une fraction de rien du tout, mais quand même un petit peu de temps après cet instant T0. Hein, voilà. Il y a eu donc 400 000 ans, on va dire, en gros, d'âge complètement sombre. Complètement sombre, ça veut dire il se passe quelque chose, mais on est dans le noir total, puisqu'il n'y a pas de, entre guillemets, lumière qui se déplace. Et puis les particules à l'intérieur, alors là, ça dépasse tout à fait mes compétences, il y a des tas de noms, des muons, des gluons et autres choses comme ça que je ne connais pas du tout, qui s'agglomèrent. Ça fait des petites choses qu'on connaît un petit peu mieux, c'est-à-dire les protons à l'intérieur du noyau, les neutrons. Puis se forment les premiers atomes, après des petites particules qui sont plus légères qui s'appellent les électrons. Et les électrons, quand ils changent d'orbite, c'est-à-dire l'orbite c'est le petit truc où ils tournent, on sait bien que tout ça c'est une fausse représentation, mais enfin ça nous aide bien à comprendre. Quand ils changent d'orbite, ils émettent une petite particule qui s'appelle le photon. Le photon, c'est ces petits grains de lumière. Et à partir du moment où ces photons existent, ça s'éclaire. C'est comme si on avait appuyé sur le bouton et d'un seul coup, il y a un petit peu de lumière et on peut commencer à regarder ce qui se passe.
Alors ce qui est incroyable, c'est que les grandes mythologies et la Bible, entre autres,
oui,
partent de cette même idée. C'est-à-dire qu'au début, il y avait l'obscurité, la nuit,
oui,
et puis quelqu'un a appuyé sur l'interrupteur.
Voilà, tout à fait. La nuit, donc, d'avant le Big Bang, on ne sait pas ce que c'est, et probablement le mot nuit ne veut rien dire, parce que la nuit, ça s'oppose au jour, et c'est impossible de penser la nuit sans qu'il y ait le jour. Donc, on n'en sait rien. Mais, en effet, comme vous le dites, dans la tradition biblique, les récits, d'abord, il y a beaucoup de récits qui se passent dans la nuit, hein, mm-hmm, et puis que les récits de la Genèse font partir, en effet, le commencement de l'univers dans cette nuit. Je crois que vous avez cité quelques passages, mais Dieu commence la création du ciel et de la terre, et il dit « la ténèbre était là », hein, la ténèbre. Et puis, au bout d'un certain moment, il dit « que la lumière soit », hein, comme si, au fond, on savait bien qu'il y avait quelque chose qui devait exister avant que la lumière n'arrive. Voilà, Dieu vit que la lumière était bonne.
On sait que l'être humain est fait des mêmes particules qui sont partout dans l'univers. Est-ce qu'on peut imaginer cette interconnexion? Et le fait de la naissance aussi, c'est de passer de la nuit à la lumière, donc une espèce d'évidence. Avant la lumière, il y avait forcément la nuit.
Oui, cette nuit utérine, elle est fondamentale, puisque c'est au cœur de la nuit, au fond, que l'univers se serait créé, au fond, avant que la lumière arrive. Et bon, peut-être on pourrait faire cette comparaison entre ces 400 000 ans avant que la lumière apparaisse avec peut-être les 9 mois de la vie utérine. Hein. C'est-à-dire, dans cette nuit utérine, l'enfant se développe, il fabrique, à partir d'une toute petite cellule initiale qui est la rencontre entre les deux gamètes, le spermatozoïde du père et l'ovule de la mère, quelque chose là jaillit dans un instant à la fois énigmatique et puis en même temps simple, puisqu'on sait l'observer sous un microscope. Dans cette nuit utérine, on retrouve peut-être dans cette phylogénèse de l'enfant, on retrouve peut-être la phylogénèse de l'univers.
On va faire un bond dans le temps et on va arriver aux grottes de Lascaux. Alors pourquoi je parle de peinture pariétale? Parce que vous le savez peut-être, mais ces peintures ne sont pas faites à l'ouverture de la grotte, mais dans des galeries très profondes. Il faut ramper, il faut passer par des puits. et elles étaient probablement conçues pour être regardées dans une semi-obscurité avec la lumière vacillante des torches. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette nuit de la création artistique, j'ai envie de dire ?
Je suis pas obligatoirement très compétent, mais il y a beaucoup de gens qui ont pu dire que dans ces grottes-là, il y avait une expérience de type religieux, oui, ou de type mystique. Hein, donc je pense qu'on pourra peut-être reprendre ça. À l'évidence, ces grottes sont des lieux de la nuit. Hein. Dans ces lieux-là, nos ancêtres du paléolithique ou du néolithique ont senti comme une évidence. Il y avait quelque chose à dire, il y avait quelque chose à projeter, et de leur univers gnostique, hein, de leur savoir à la fois archaïque et extrêmement, extrêmement élaboré, ils ont raconté leur histoire intérieure. Hein. La grotte Chauvet, 31 ou 32 000 ans, la grotte Lascaux, 16 000 ans. Donc, quelque chose de leur expérience intérieure, de la nuit, de leur questionnement probablement sur et l'origine et la finalité du monde, ils ont voulu en faire une représentation, et c'est tout à fait fabuleux. Et je ne sais pas si on se rend compte combien 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est déjà très ancien, mais on peut faire une représentation, c'est-à-dire les hommes, ils avaient déjà inventé l'élevage, l'agriculture, 3, 4, 5, 10 000 ans, ça c'est le néolithique. Mais la grotte Chauvet, c'est 31 000 ans, c'est-à-dire 20 000 ans avant ça, ou 25, ou peut-être 28 000 ans avant. C'est absolument hallucinant.
Ce qui veut quand même dire que tout ce qui est les caractères mystiques, la religion, peut-être aussi le caractère artistique, c'est lié à la nuit. Ça, c'est quelque chose de fondamental depuis le départ. C'est la nuit que l'on rentre en contact avec...
Moi, je crois au fond. Les grands écrivains sur les expériences mystiques, que ce soit Denis l'Aréopagite au VIe siècle, que ce soit Maître Eckhart dans la mystique rhénane, que ce soit bien évidemment Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, ont raconté des choses qu'ils rattachaient à une expérience de l'ordre de la nuit. Donc, dans toute la théologie mystique, la nuit est le lieu de l'expérience du divin. Et peut-être on peut penser que c'est pas un hasard que l'essentiel des lieux de culte soit des lieux un petit peu sombres, qu'on sente bien que lorsqu'on a envie peut-être de prier, il faut aller au cœur de la nuit. Ici, on est au milieu du jour, on va aller dans une petite chapelle, on va aller dans un temple, on va aller dans une mosquée, qui, en raison de la pénombre qu'elle offre, renvoie à une intériorité, et que cette intériorité favorise l'expérience du divin. Et puis, je pense que ceux qui ont écrit, en particulier ces mystiques de la nuit, ils ont dit que l'expérience du divin, c'est traverser quelque chose de la nuit, c'est-à-dire en faire une expérience sombre, obscure et souvent douloureuse.
Dans le cas des grottes, je reviens, il y a cette comparaison peut-être un peu facile avec le ventre maternel également. Quoi, pour...
Oui, je crois. Alors, je crois que...
Le ventre de la terre. Hein.
Voilà, le ventre de la terre, on peut penser aussi à Vendredi ou les Limbes des Pacifiques aussi, hein, où cet homme, ce Robinson Crusoe, là, le livre de Tournier, retourne dans le ventre maternel. On peut penser à Jonas qui retourne dans le ventre de la baleine aussi pour aller puiser des forces intérieures et des forces psychiques. Donc je crois que si on entend la nuit utérine comme le lieu d'une véritable gestation intérieure, dont la gestation réelle dans le ventre de notre maman historique ne serait qu'un des événements, alors on peut comprendre bien la valeur de ce retour in utero, de cette dimension régressive, non pas dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une passivité douloureuse et presque de l'ordre d'une pathologie, hein, d'une pathologie dans le sens du pathos, hein, de la souffrance, mais comme aussi le lieu de la créativité. C'est pour ça que moi je sais bien, par exemple, qu'en tant que psychanalyste, que le temps de régression des patients qui surgit souvent au décours d'un travail que l'on fait ensemble, c'est à la fois un lieu douloureux, comme la douleur de l'expérience mystique que décrivent Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila, mais c'est aussi le lieu du ressourcement, le lieu d'une nouvelle créativité.
Eh oui, les astronomes, les enfants, les poètes, il y a 107 ans qui dit mieux qu'ils n'ont plus vu la Voie lactée. Bon, ils n'en mourront pas, diront certains, c'est vrai. En revanche, beaucoup d'animaux en mourront.
En fait, moi je m'intéresse depuis longtemps à certaines espèces, notamment aux amphibiens. Donc les amphibiens, on les voit la nuit, ils sortent, ils se promènent la nuit. Et donc depuis que je suis tout petit, je me promène beaucoup dans les forêts, dans la nature, la nuit. Et je me suis aperçu assez tôt, moi-même, puis en discutant avec des anciens, qu'un certain nombre d'espèces disparaissaient. Et j'ai remarqué qu'autour des lampadaires, certaines des espèces disparaissaient beaucoup plus vite.
Là, c'est les lucioles.
Oui. Alors le problème des lucioles, c'est qu'elles communiquent entre elles par des impulsions lumineuses et c'est lié à la reproduction. Donc il faut que les mâles et les femelles puissent communiquer. Or, 5000 lucioles, ça produit autant de lumière qu'une bougie. C'est infiniment moins qu'un lampadaire. Et donc, un seul lampadaire introduit dans leur environnement interdit qu'elles se reproduisent.
Nous venons de faire un bond dans le temps et nous voilà avec ce qu'on appelle aujourd'hui la pollution lumineuse, qui, comme vous avez pu l'entendre, affecte les organismes vivants. Mais avant d'aborder nos nuits contemporaines et électriques, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière pour rattraper le fil de notre histoire. Voilà une histoire de la nuit qui a été bouleversée par la pensée philosophique. C'est la nuit de Platon qui a marqué la philosophie, n'est-ce pas, docteur Dominique Desmichel ?
Oui, alors ça fait partie des choses qu'on connaît un peu tous, plus ou moins, si on est allé un peu à l'école. Et puis souvent, on ne sait pas très bien, hein, tout le monde part du « oui, le mythe de la caverne de Platon ». Alors, c'est quoi cette caverne ? En fait, si on en fait une espèce de petite représentation, c'est comme s'il y avait une espèce de trou, au fond, il y avait une caverne, et puis les hommes à l'intérieur s'agitent dedans, et puis il y a des jeux d'ombre. En fait, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, pour Platon, la caverne symbolise le monde sensible, le monde perceptible, celui qu'on reçoit, c'est-à-dire, pour rejoindre notre thème, le monde du jour, hein, le monde du jour. Mais ces hommes, ils sont en fait, dit Platon, dans une caverne, c'est-à-dire dans une sorte de nuit. Et ils sont en quelque sorte prisonniers de cette caverne. Et ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que nous tous, nous sommes un petit peu captifs de tas de choses qui n'ont pas été intériorisées ou qui ne viennent pas de notre propre autonomie, mais qui sont des idées. Et que c'est juste leurs ombres qui témoignent d'eux-mêmes. Hein. Donc Platon, il invite l'homme à devenir philosophe, c'est-à-dire à rejoindre le monde des idées, c'est-à-dire à comprendre ce qui se joue, à comprendre que le monde est un jeu d'ombre, est un jeu de dupes, et donc à sortir de cette caverne pour rejoindre le jour en ayant intériorisé ce contenu de la nuit.
Il y a un mythe également, poursuivons notre voyage à travers la nuit, c'est le mythe d'Orphée, qui a pour contexte, justement, la nuit et l'obscurité.
Alors, Orphée et Eurydice, c'est un très beau mythe que j'aime beaucoup, parce qu'il y a de très belles musiques qui ont été faites dessus. En gros, Orphée, c'est un gars super doué, qui est un très grand musicien. Il est tellement bon musicien que même les pierres, quand elles l'écoutent, elles en pleurent d'émotion. Hein. Donc, il est capable de charmer tout le monde. Et puis, je fais un tout petit peu court, en gros, il tombe amoureux de Eurydice, c'est le grand et bel amour. Et puis, Eurydice, elle est tentée par quelqu'un d'autre, Aristée, donc elle quitte Orphée. Et puis, pas de chance, elle est mordue par un serpent et donc elle meurt. Orphée, lui, il est extrêmement, extrêmement malheureux, presque mélancolique, extrêmement triste. Et donc, il va utiliser son art musical pour essayer d'aller chercher Eurydice aux enfers. Donc il descend aux enfers. Et là, grâce à sa musique, il arrive à séduire les divinités des enfers, le chien qui garde l'entrée, voilà. Mais les dieux lui disent quand même, ok, tu peux récupérer ton Eurydice, mais quand tu vas sortir de l'enfer, il ne faut pas que tu te retournes. Or, Orphée n'arrive pas à résister à ce désir de revoir son Eurydice. Il se retourne, et quand il se retourne, Eurydice est transformée en pierre. Alors, symboliquement, ça veut dire quoi ? Orphée, il est amoureux fou, d'une sorte d'amour presque possessif, vous voyez, pour l'autre. Il est le plus grand des musiciens, il puise son art au creux de son corps, de son cœur, de son intelligence. Et dans une certaine mesure, on pourrait dire que Eurydice, c'est son œuvre, presque c'est son objet, l'ultime preuve de sa créativité. Et en allant voir quelqu'un d'autre, Eurydice, elle s'échappe de son pouvoir, de son emprise, comme s'il l'avait façonnée en quelque sorte. Sa puissance créatrice est cependant telle qu'il pourrait ressusciter ou réanimer Eurydice morte après la morsure du serpent. Il charme les forces de la nuit, il charme les forces de la mort, mais celles-ci lui disent « il y a quand même une loi ». Il ne peut ramener au jour, c'est-à-dire sortir Eurydice de la nuit, que s'il ne se retourne pas. Et c'est au plus creux de cette nuit qu'il vit, probablement tout à fait authentiquement, qu'il a ce grand cri qui va être repris si magistralement, en particulier dans la musique avec Gluck, de « Eurydice ». Mon Eurydice. Orphée, probablement, il a confiance en lui, il doute des dieux, il se retourne, et à ce moment-là, il perd son authenticité. Je pense que dans cette expérience-là, il y a quelque chose autour de l'altérité. C'est-à-dire, si au fond, Orphée, il avait laissé à Eurydice une forme de liberté, comme les artistes disent, à partir du moment où j'ai fini mon œuvre, elle va suivre son destin et elle appartient à celui qui va l'acheter, par exemple, ou qui va la posséder, ou qui va la regarder, ou qui va l'admirer, alors probablement il aurait laissé Eurydice vivante. Mais en se retournant, il reste captif de cet éros qui emprisonne Eurydice. Il n'arrive pas à respecter cette altérité difficile, douloureuse. Il veut posséder Eurydice, ramener au jour, sortir de la nuit, revivifier son amour ou sa part créatrice, ne peut pas passer par un autre chemin que cette altérité radicale. Et je pense que c'est toute notre expérience à nous tous, dans notre vie de couple, avec nos enfants, avec les gens qui nous entourent, c'est quelque chose de difficile. C'est-à-dire accepter que l'autre soit toujours autre, c'est-à-dire non observable, non contenant, non figurable, non capté. Nul ne peut posséder l'autre. Et je crois que le mythe d'Orphée, il dit ça. C'est-à-dire Eurydice était l'objet d'Orphée. Cette Eurydice-là, elle ne peut pas sortir de l'enfer.
Ce n'est pas étonnant si beaucoup de modernes ont repris ce mythe. Oui. Vous avez dit, Orphée descend pour arracher à l'obscurantisme, j'ai envie de dire, là, c'est moi qui le dis, des dieux pour vivre sa propre vie et sa propre indépendance. On continue notre voyage de l'histoire de la nuit, on arrive au siècle des Lumières, c'est exactement ça le siècle des Lumières. C'est-à-dire c'est à la lumière de la raison, on va vous sortir de l'obscurantisme. C'est pas que ça, mais...
Je crois tout à fait. En tout cas, c'est d'ailleurs très étonnant, parce que vous savez, le siècle des Lumières, c'est un siècle qui est en France, mais qui est pratiquement dans toute l'Europe, et qui porte d'ailleurs, je crois, en allemand, en anglais, en italien, j'en suis sûr, le même mot. Ça s'appelle le siècle des Lumières, enfin quelque chose près. On retrouve le même mot des Lumières. Donc on est là, dans ce siècle-là, dans une sortie, en effet, de cette forme d'obscurantisme, et où en particulier le divin régnait en maître, c'est-à-dire un pseudo-divin récupéré par probablement les puissances, que ce soit en effet du côté de la monarchie ou du côté de l'Église, pour en faire une sorte d'objet normatif et non pas comme une expérience intérieure. Et donc là, en effet, par rapport à cette loi divine projetée sur les hommes, incarnée par le roi ou par son équivalent ecclésiastique, la raison va venir s'opposer à la passion et venir éclairer les pensées et inviter à l'autonomie.
On arrive au XXe siècle et moi j'ai la chance d'avoir connu un électricien qui avait installé l'électricité dans un petit village à la campagne. Et c'était un phénomène incroyable, c'est-à-dire que pour le coup on sortait vraiment d'un siècle d'obscurité. Parce qu'on a du mal aujourd'hui à s'imaginer ce que pouvait être une veillée en hiver dans le centre de l'Europe, c'est-à-dire à 5 heures on pouvait aller se coucher quasiment, quoi. C'était des minuscules bougies, enfin c'était compliqué.
Il y avait les bougies, il n'y en avait probablement pas beaucoup parce que ça coûtait cher quand même de faire des bougies. Donc il y avait le feu dans la cheminée et qu'on se réunissait autour de la veillée, de la veille, autour du feu. Et puis quand le feu s'éteignait, eh bien on allait se coucher.
Et puis le feu, la lumière du feu, c'est quoi? C'est 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres quoi. Dans le dos, on a la nuit en tout cas.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'était une expérience sûrement tout à fait fondamentale que à la fois ce foyer qui est clair, il faut se rappeler qu'on parle de foyers fiscaux, par exemple, c'est-à-dire on renvoie au feu qui éclaire la maisonnée, et probablement un rapport radicalement différent à la nuit.
Et on en arrive à ce paradoxe aujourd'hui de pollution lumineuse. Oui. On a trop de lumière, la nuit n'existe plus en ville, nuit n'existe plus.
Oui, je pense que c'est assez triste. Je suis pas très sûr. L'exemple que vous donniez là
sur les lucioles,
est assez. Enfin, je connaissais pas ça du tout. C'est à la fois terrible sur le plan biologique, mais en même temps, si on l'entend comme une métaphore de toute autre chose, alors c'est extrêmement inquiétant, comme si la nuit était devenu le grand refoulé de notre temps. Et ce n'est pas impossible.
Et ça signifie que toutes nos peurs de la nuit, bien sûr, ressurgissent derrière ce que vous venez de dire. Ou en tout cas, nos peurs d'une intériorité.
C'est sûr que l'intériorité et la nuit, pour moi, c'est extrêmement proche. C'est-à-dire, dans cette plongée à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une plongée à l'intérieur de la nuit. C'est là où on y trouve à la fois la plus grande de sa créativité, mais aussi l'espace pour définir ses propres valeurs, c'est-à-dire des valeurs qui ne soient pas héritées de nos parents simplement ou d'une loi sociale collective, qui nous fassent faire l'expérience de cette altérité radicale comme on le voit dans le mythe de Orphée et Eurydice. Et c'est quelque chose de difficile. Moi, dans mon expérience de psychanalyste, en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que les gens qui viennent me voir, ils viennent toujours avec cette question-là, et que ce qu'ils vont rencontrer d'abord, c'est leur nuit.
Et on chasse ces espaces d'intimité. Dans notre époque contemporaine, on essaye de les éviter au maximum. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter la nuit. Et peut-être que vous avez en image ces personnes qui sont avec leur écran de tablette ou leur téléphone dans la nuit et cette lumière blafarde qui éclaire leur visage. Il y avait une photographe qui avait fait toute une série de photographies comme ça. C'est terrible, cette lumière blafarde de la modernité.
Je suis allé au cinéma la semaine dernière. Et j'observais en sortant du cinéma le nombre de personnes, première chose qu'ils font, ils ne discutent pas avec leurs voisins ou leurs voisines, enfin la personne avec qui ils sont venus éventuellement, sur qu'est-ce que tu as pensé du film, ceci, cela, ils allument leur téléphone portable. Ils rallument leur téléphone portable. Comme si, en effet, il y avait une espèce de pseudo-luciole intérieure qu'on gardait dans sa poche et qui venait éclairer une nuit inaccessible, dangereuse, cauchemardesque, on pourrait presque dire.
Alors qu'est-ce qu'il faut dire à nos auditeurs? N'ayez pas peur de la nuit, plongez dans la nuit, laissez-vous avaler par la nuit.
Je ne sais pas s'il ne faut pas avoir peur de la nuit, parce qu'il y a lieu d'avoir un peu peur de la nuit. Enfin, c'est normal d'avoir peur de la nuit, ça renvoie à notre enfance, on en reparlera, je pense. Je dirais plutôt que la nuit, c'est le lieu fondamental de notre créativité. Donc, vous, auditeurs, si vous avez envie de rejoindre quelque chose de votre créativité, si vous vous interrogez sur le sens de votre existence, sur le sens de votre famille, de votre couple, de votre rapport avec vos voisins, si vous vous interrogez sur les cauchemars qui vous habitent, si vous vous interrogez sur vos rêves qui vous hantent, si vous vous interrogez sur la justesse de votre existence, retournez dans votre nuit. Peut-être vous aurez un petit peu les chocottes. Et alors, il faut y aller. C'est là où on trouve le fond le plus riche de notre créativité.
Ainsi prend fin notre émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours et en attendant, bonne nuit.